Hola a todos y todas y bienvenido al Star Trek por los Nuevos, el podcast. C'est ce que j'aurais dit si cette émission s'appelait Star Trek por los Nuevos, el podcast, mais vu que je suis francophone et que je veux vous épargner vos oreilles, bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle émission de Star Trek pour les nuls, le podcast, toujours sur les ondes de puissance maximale.
Ouais.
Et la prochaine fois, ça sera en allemand.
T'as un super accent slovaque.
Guten Tag. Alors, pour rappel du concept de l'émission, nous faisons découvrir de véritables nouveaux, les cadets, ce qu'est Star Trek au travers des séries et films qui composent ce magnifique univers. Et aujourd'hui, nous sommes une équipe réduite, puisque nous ne sommes que trois. Cadet Charles, présent ?
Présent.
Et pour m'accompagner, le commandeur Dragor.
Fijat.
Et le commandeur, quand même, alors forêt.
Quant à moi, je suis Rémi, et vous écoutez Star Trek pour les nuls. One small step for man, one giant leap for mankind. Star Trek pour les nuls. Bon alors, comment ça va tout le monde?
Bon, ça va tranquillement.
Très très bien, un peu crevé parce que j'ai passé un week-end de folie, mais sinon tout va bien.
Nuit de folie.
De folie dans le bon sens du terme, donc ça va.
De façon années 80.
Non, pas années 80, non.
Ben d'ailleurs, tiens, ça m'amène à une petite question. Quelles sont les dernières news un peu geek? Dragor, t'as fait quoi? Enfin, si ça a un lien d'ailleurs.
Ouais, ça a pas de lien avec Star Trek, mais je me suis un peu remis au rétro gaming récemment. Donc, je suis en train de me martyriser tout seul sur Donkey Kong.
Sur arcade. Bon, ça.
Parce que j'ai vu le reportage King of Kong. Ça oui. M'a trop donné envie. Donc voilà. Et sinon, je joue à Duck Hunt sur la NES. J'ai passé la soirée à faire ça. Enfin, la soirée. La moitié de la soirée, puisque maintenant je suis là. Et je suis super content parce que j'ai trouvé une version pâle de Schiller à un prix correct. Donc du coup, je vais pouvoir buter des zombies et des fantômes.
Est-ce que
dès que je l'aurai reçu.
Tu est-ce que il en fait une pendule, Schiller?
Elle était vraiment pas drôle. Celle-là, t'aurais dû te la garder.
C'est des choses qui arrivent.
C'est le direct. C'est le direct. On le sent là de suite. Hein.
Écoute. Et toi, Charles, quelles sont tes news geek?
Oula, moi, pas mal, ça bosse pas mal, moi, de mon côté. Je prépare la troisième édition de mon salon. Donc, du coup, là, je suis en train de faire l'inventaire des jeux qu'on a avec mon assos, pour le salon qui se passera au mois de novembre. Et après, au niveau jeu, c'est quoi le jeu que... Alors, il y a un jeu que je viens de me prendre, c'est le Shadow of the Colossus, la réédition sur PS4. Mais je l'ai pas encore démarré. Sinon, le dernier jeu que j'ai fait, du coup, c'est le Frost, comment il s'appelle? Frost? Jeu de gestion, là. Ah, merde. Ça y est. Il m'a posé une colle. Un jeu de gestion, en fait, où on doit survivre dans le grand froid. Voilà. Et donc, du coup, t'as des choix moraux et tout. Est-ce que tu vas foutre les enfants au travail et tout, machin. C'est rigolo.
Pour rappel.
C'est rigolo de mettre les enfants au travail.
Ouais, voilà.
Cool, ton jeu.
Ouais. Il est vraiment cool.
Juste pour rappel par rapport à ce que tu disais au tout début, Charles, tu nous parles un peu de ton salon? Qu'est-ce que c'est?
Ah oui, je suis président en fait de l'association Gamers Committee qui organise des événements en fait autour du jeu vidéo, du manga, comics, cosplay. Et du coup, on a un salon annuel à l'Île Jourdain dans le Gers, du coup avec tout ce qui est jeux vidéo, manga, cosplay, voilà. Et donc l'entrée est gratuite et vous pouvez venir vous amuser sur les jeux que je viens m'embêter à faire l'inventaire justement. Voilà.
Bravo. Et il y a notamment de la VR.
Ah oui, de la VR, oui, bien sûr. Et on a deux stands VR et un stand AR. Enfin, c'est pas la même chose. La VR, t'es enfermé dans le monde et l'AR, du coup, c'est la réalité augmentée. C'est vraiment comme du Star Trek, en fait. T'as des images qui sortent de la réalité.
D'accord.
Voilà, voilà.
Ah, je connaissais pas la précision. Merci beaucoup. Bon, allez.
Ouais, ça a l'air cool, en tout cas.
Ouais. Retour au sujet. Pour cette émission, nous allons parler géopolitique, puisque nous avons sélectionné 4 épisodes de la série Enterprise. à savoir The Andorian Incident, Shadows of Pigem, Fusion et Dear Doctor. Ce dernier étant un petit peu plus un petit peu plus léger, mais on trouvait qu'il avait certaines particularités bien amenées.
Léger, il est dur quand même. Hein.
Il est chaud. Hein.
Oui, mais léger dans le dans l'univers étendu de dans ces ouais.
D'accord.
Oui, mais non, mais
c'est plus dur quand même.
Hein. Ouais, bon, d'accord. Ouais, enfin, Fusion quand même.
Ouais, mais il est chaud sur une personne, Fusion. Dire docteur, c'est bonjour. Est-ce qu'on va exterminer une espèce?
Ouais, ouais.
Il y a un génocide d'un côté et de l'autre, t'as une personne qui souffre. Bon, la part des choses.
Ouais, c'est une question de point de vue.
Voilà.
T'as le point de vue du connard, alias Rémi, le point de vue de l'être humain normal.
Ouais, c'est l'évolution, c'est bon.
Tu feras un bon Vulcain, Charles.
Ouais, merci.
Justement, Charles, en parlant de Vulcain, tu commences à nous présenter The Andorian Incident.
Allez, c'est parti. Donc, nous avons donc l'USS Enterprise qui se balade et le commandeur Scherf fait « Oh tiens, un temple. Oh bah tiens, j'aimerais bien aller le visiter. » Donc, un temple Vulcain, bien sûr. S'ensuit une certaine péripétie et ils arrivent en fait à un moment où une race ennemie des Vulcains, les Andoriens, ont kidnappé, on va dire, ouais, ont kidnappé en fait les moines du monastère et ils cherchent une hypothétique, source d'espionnage entre guillemets, du matos d'espionnage. Et donc le commandeur Archer et son équipe se retrouvent bloqués sur cette planète avec justement ces Andoriens. Ils les capturent, ils doivent s'enfuir. Et est-ce qu'on raconte la fin?
Ah, de toute façon, on va être obligé de spoiler si on veut en parler.
On va être obligé. Vas-y. Voilà. Donc on spoil, on y va. Et en fait, on se rend compte à la fin, du coup, que ces Andoriens n'étaient pas que complètement parano. Il y avait bien un poste d'espionnage sur la planète. Et Archer prend donc le parti des Andoriens pour justement éviter la suprématie vulcaine. Voilà un petit peu le résumé. Si j'ai pas trop dit de conneries.
Non. Ils sont pris en otage, j'ai perdu le mot. Bref.
Enlevés.
Oui, ils sont pris en otage. Ils sont pas enlevés. C'est tout. Oui. C'est de la précision. Bah, qu'est-ce que t'en as pensé? Les Andoriens, avant tout, déjà, une petite race sympathique.
Sympathique. Tu les sens, en fait, très nerveuses. C'est vraiment c'est l'opposé, en fait, des Vulcains qui ne disent rien et qui ne font rien. Enfin, je parle au niveau des émotions. Les Andoriens, en gros, ils expriment tout et c'est très violent, en fait. Ils sont quand même assez proches, on va dire, des humains, en fait, au niveau de leur comportement, quoi.
Ouais, peut-être un peu plus violent.
Un peu plus violent. Après, bon, on va pas faire d'analyse de l'humanité, mais voilà.
Bah après, on peut pas non plus analyser une race entière
sur quatre
péloïdes. Ce qui est intéressant en fait dans cet épisode, c'est la première fois que l'on revoit des Andoriens depuis très longtemps. Je crois qu'on les avait vus que dans la série originale. Et tu m'arrêtais, Dragora, si je dis des bêtises.
Et la série animée aussi, mais. On la compte avec la série originale.
Oui. Et en fait, elle sert un peu à leur redorer un peu le blason.
D'accord.
À la base, c'était juste un mec peint en bleu avec une fourrure sur la tête et une fourrure sur les épaules et deux cuillères dans les oreilles sur la tête pour faire des oreilles. C'était vraiment un petit peu chelou. Du coup,
je trouve que t'exagères un peu quand même. Mais
la première fois qu'un Andorien apparaît dans la série originale, moi ça m'a sorti totalement de ma suspension d'incrédulité. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc?
C'est vrai que ça fait partie des espèces réputées kitsch de la série originale. C'était un vrai défi de réussir à les moderniser sans trahir leur style, quoi. Et je trouve qu'Enterprise a vraiment bien réussi, quoi. C'est moi, pour moi, c'est un tour de force. Enfin, Charles, est-ce que tu les as trouvés kitsch, toi, dans cet épisode?
Je les ai pas trouvés kitsch ni ridicules, hein. Franchement, moi, pour moi, ils étaient convaincants en race alien.
C'est moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti aussi à l'époque.
Ah ouais, il redore totalement le blason. Les antennes qui bougent en plus dans tous les sens. Enfin, c'est cool.
Et finalement, si on regarde par rapport à la série originale, les différences sont vraiment minimes en fait. C'est limite une question de coupe de cheveux quoi, mais il y a vraiment très peu de différences. C'est juste qu'ils ont repris le design, ils ont des meilleures technologies. Et puis voilà quoi, ça donne ça. Et c'est vachement bien. Ça, il y a pas mal de choses où Enterprise a fait des trucs assez impressionnants sur ce côté-là. Moi, je trouve. Parce que c'était quand même des mecs bleus avec des antennes quoi. Arriver à les rendre crédibles.
Oui, c'est sûr que des blonds en plus.
Ouais. Ah ben quoi d'autre? Quels sont tes ressentis par rapport à cet épisode? Les Vulcains par exemple qui se comportent quand même.
Comme des enfoirés.
Voilà.
Non, on les sent bien en fait. On l'avait senti dans le prologue. C'est ça. Hein, oui, c'est ça. On l'avait senti dans le prologue que les Vulcains se sentaient un petit peu au-dessus des lois, mais même des leurs en fait. Ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient en fonction des autres espèces. Et ça appuie vraiment ce propos-là de non, mais nous, on est les meilleurs. Et puis oui, bon, on dit qu'on fait pas ça, mais on s'en fiche en fait. Vous êtes pas au courant, c'est pas grave quoi. Et en gros, ça pourrait placer IA en fait. Les Vulcains, c'est la CIA, c'est non, on fait pas, et puis faut pas nous espionner, et puis nous espionner. Voilà, ça pourrait être un peu ça. C'est assez rigolo, je trouve.
Je sais pas si tu te souviens, on avait dit lors de la première émission qu'on trouvait les Vulcains pragmatiques. Là, moi, je trouve qu'ils sont moins pragmatiques, mais beaucoup plus. C'est à la limite de l'agression, en fait. Ils font passer ça pour de la sécurité, pour éviter d'éventuelles agressions, mais enfin selon moi c'est à la limite de l'agression, oui, ce qu'ils font, parce qu'au final on l'a pas révélé, mais
si. Radar pour espionner la planète, pour savoir que n'importe quel Andorien se va où et qu'est-ce qu'il fait, et c'est limite quand même, surtout quand tu viens de faire un traité de paix et tu dis que non tu vas plus l'espionner, enfin c'est gros quoi.
Cet épisode, moi, je trouve qu'il est sur l'établissement de, comment dire, de la politique et de la sociologie vulcaine du 22e siècle. Je trouve qu'il est vachement bien pensé. Alors, je veux pas spoiler la saison 4 d'Enterprise, mais il y a des choses qu'on apprend dans la saison 4 qui sont directement reliées à cet épisode, en fait. Qu'il n'est pas du tout anodin. Et ce que j'aime bien, c'est que... Alors moi, quand j'ai regardé l'épisode la première fois, j'avais quand même un bon bagage Star Trek avant. Et sur le coup, j'étais un peu scandalisé du comportement des Vulcains. Et après, je me suis dit que c'était logique, parce que bah finalement, c'est logique d'espionner un peuple agressif et proche, quoi, et de pas vouloir le dire quelque part. C'est complètement logique, même si dans l'épisode ça fait vraiment bâtard, mais bon, c'est pas si logique que ça finalement. Mais du coup, ça passe, et j'ai trouvé ça vachement subtil, surtout en voyant après les explications qu'il y a dans la saison 4. Je trouve que c'était vraiment bien pensé, et ça prépare vraiment bien le terrain pour la suite.
D'accord. Donc, tu me donnes des pistes pour la suite.
Et du coup, moi, je voulais savoir le comportement d'Archer, sa réaction quand il découvre que les...
Alors, moi, ça m'a pas choqué du tout. Le fait qu'il donne comme ça les renseignements aux Andoriens, ça m'a pas du tout choqué, vu que il a un passif quand même avec les Vulcains qui ont entre guillemets traîné dans la boue son père et tout ça, donc il avait une revanche en fait à prendre sur les Vulcains par rapport à ça. C'est vrai de voir que les Vulcains du coup étaient dans le mensonge par rapport aux Andoriens et qu'ils espionnaient et tout ça. Il s'est senti du même côté de la barrière, donc moi, c'est complètement logique qu'il ait donné ses renseignements. Après, le seul comportement, entre guillemets, qui pourrait se poser question, c'est le comportement de T'Pol. On sait pas trop si elle le fait de bonne volonté ou si elle le fait sous l'ordre, entre guillemets, d'Archer.
Ah oui.
Il y a que ça. On reste dans le... Est-ce qu'elle l'a fait pour lui faire plaisir ou est-ce qu'elle l'a fait parce qu'elle était vraiment, vraiment sûre que c'était la bonne chose à faire?
Je pense que sur le coup, elle était un petit peu perdue. Elle l'a fait pour obéir aux ordres et c'est plus tard qu'elle pensera avoir fait le bon choix. Mais sur le coup, je pense qu'elle était trop bouleversée pour penser faire le bien ou le mal. Lorsqu'elle se rend compte que son peuple ne respecte pas ses propres engagements, elle doit être bien plus bouleversée qu'elle ne fait voir, évidemment. Mais c'est de la spéculation.
Après, je me suis quand même posé la question, moi, si elle était pas au courant. Parce qu'elle a eu un tel moment d'hésitement que quand elle voit la base, elle fait un regard et tu te demandes, mais elle est surprise parce qu'elle a trouvé le truc qu'elle voulait pas qu'on trouve ou est-ce qu'elle est surprise de trouver ceci? Je me suis posé la question, moi, si elle le savait pas déjà. Enfin...
Alors moi, son hésitement, je l'ai perçu, mais c'est peut-être moi qui délire un peu, c'est... En fait, elle se demandait sur quelle logique basait son enfin, sur quel référentiel basait sa logique, pardon. Mmh. C'est-à-dire que si elle prend le système hiérarchique militaire, la logique c'est d'obéir à son capitaine, quoi.
Oui.
Et si elle prend une question de loyauté vis-à-vis de son espèce, la logique ça aurait été de refuser. Mais est-ce que la loyauté c'est pas une émotion?
Bonne question.
Ah, j'avais trouvé ça intéressant ce petit hésitement court là. Ça c'était assez parlant. Et oui, je suis d'accord sur la réaction d'Archer. C'est logique par rapport à son passé. Puis c'est aussi logique par rapport au fait que depuis le début, il reproche aux Vulcains de pas assez les informer.
Oui.
Et que là, il est devant le fait accompli de. En fait, si les Vulcains les avaient informés, ça serait pas arrivé quoi. Et ça, il y a une petite une petite tape sur la tête en disant voilà ce qui se passe quand on nous informe pas. Bon, les Vulcains l'ont pas du tout compris comme ça, mais j'aimais bien cette idée là aussi.
Oui, totalement. Est-ce qu'il y a d'autres choses en particulier dans cet épisode que vous vouliez aborder? Ok. Alors, eh ben, vous êtes là ou je parle de tout?
Oui, on est là.
Ah, j'ai eu peur.
Non, c'est qu'on a rien à dire.
Ok.
D'accord, ok.
Eh bien, Shadows of PJM, puisque c'est quand même, ça pourrait être presque la suite directe. Charles, tu nous le présentes?
Alors, tu m'as dit Shadow, d'accord, l'enlèvement, ok.
Eh oui, pardon, excuse-moi.
Voilà. Non, il n'y a pas de souci. C'est juste pour que je me retrouve dans mes notes. Donc, Shadow, alors la suite qui se passe un peu plus tard, parce que normalement, il y a l'évolution de l'espèce hein, qui passe et avant.
Oui, mais je voulais le garder en dernier pour... voilà.
D'accord, ok. Donc, c'est normal, donc il n'y a pas de souci. Donc, du coup, on est à la suite de la destruction du sanctuaire. Les Vulcains sont pas contents, parce que, du coup, comme Archer a donné les informations, les Andoriens ont détruit la base. Et donc ils sont pas très très contents et ils veulent récupérer T'Pol, du coup qu'ils estiment responsable en fait de ce désastre. Et au même moment, l'Enterprise se trouve près d'une planète qu'ils veulent visiter où ils sont invités, sauf qu'il y a des révolutionnaires en fait sur cette planète qui vont capturer Archer et T'Pol. Et va s'en suivre une série de péripéties où on va revoir notamment les Andoriens que Archer avait aidés en donnant les renseignements. Et je sais pas comment finir un peu ma phrase, je suis perdu, excusez-moi. Il s'appelle un bug complet. Oui, donc je vais reprendre, excusez-moi. Donc ils se font kidnapper du coup par des rebelles et se font aider par la suite par des Andoriens que Archer avait aidés. Et au cours de l'opération de sauvetage, en fait, les Vulcains viennent en force pour tuer les rebelles, en fait, tout simplement. Et T'Pol sauve le capitaine du coup Vulcain in extremis. Et du coup, ce capitaine Vulcain va parler au nom de T'Pol à la commission des Vulcains pour éviter qu'elle se fasse engueuler. Voilà. C'était un résumé dégueulasse. Merci.
il empêche également le fait qu'elle soit affectée à un autre vaisseau.
Oui, tout à fait, oui. Allez. Mais tu m'as perturbé, c'était pas mon ordre d'épisode.
Ah, je suis désolé. Après, en parlant de fusion, ça va aller ou...
Oui. Donc, fusion, okay, c'est celui-là. Ok, je serai prêt.
Ouais, après. Mais alors, dis-nous tes ressentis un peu.
Alors, moi, j'avais bien aimé. Alors, j'ai pas regardé du coup dans l'ordre là. Moi, je l'ai regardé dans l'ordre logique, on va dire. Et j'ai regardé tous les épisodes entre pour justement voir l'évolution un peu des personnages. Du coup, j'ai bien aimé en fait le fait qu'on revienne dessus, en fait que ça soit pas juste un événement comme ça qui s'était passé avec les Andoriens. Le fait de les revoir est quand même assez sympa. Et par la suite, du coup, l'évolution en fait de T'Pol est aussi assez assez intéressante en fait. On voit qu'elle hésite un petit peu en fait à quitter son poste. Elle sait pas sur quel pied danser entre guillemets. Est-ce qu'elle fait ce qu'elle veut ou est-ce qu'elle doit assumer entre guillemets ses responsabilités? Elle est plus de ce côté-là, mais Archer essaye de la faire changer d'avis là-dessus, quoi. Et c'est vrai que c'était un très bon épisode.
Qu'est-ce que t'as pensé de son dialogue avec le Dr. Phlox?
Le dialogue...
Ça t'a pas marqué?
Non, ça m'a pas marqué du tout.
Ouais, elle a un petit dialogue avec Phlox. Enfin, c'est un peu lui qui vient la chercher, en quelque sorte.
Il
parle un peu de sa présence sur le vaisseau.
Oui. Quand ils sont à la cantine.
Ouais.
Ouais, ça y est, ça m'en revient. Oui, justement, qui lui dit elle avait quand même extrêmement bien réussi son rôle puisqu'elle est là depuis plusieurs mois alors que les autres Vulcains qui étaient venus sur des bâtiments humains n'avaient tenu que quelques semaines. Encore, c'était quelques jours, non?
Je m'en rappelle plus exactement, mais ouais, ils avaient craqué très vite, quoi.
Et ils avaient craqué vraiment très très vite et elle s'était bien adaptée. Qu'il fallait qu'elle remette ça entre guillemets sur un piédestal parce que elle a fait du bon boulot, donc c'est pas juste une erreur. Et même pas de sa faute entre guillemets puisque c'est celle de son pote, donc c'est vrai que c'est un bon petit dialogue, ouais.
Ça fait pas écho à... Il y avait pas eu une scène un peu équivalente dans The Andorian Incident au début où elle non, c'était peut-être dans un autre épisode.
Oui, si, tout à fait, si, sur le côté l'exploration, il fait une petite leçon sur Lydic. Alors pour les gens qui connaissent pas Infinite Diversity, Infinite Combination, une infinie de diversité dans d'infinies combinaisons, en faisant le parallèle avec l'exploration que pratiquent les humains. Moi j'adore leur dialogue à tous les deux, ils sont plein de subtilités et comment dire, il y a beaucoup de finesse dans leur dialogue et c'est super agréable, je trouve.
Après, c'est pas un épisode. C'est un épisode qui passe bien en termes d'action et de développement de personnage. Je trouve pas qu'il y a grand chose à en retirer en fait, en termes général.
Ben en fait, oui, c'est pas comme
Star Trek en fait. Il est très sur les personnages en fait, cet épisode-là. C'est vraiment l'évolution de T'Pol dans le groupe et Archer du coup qui essaye de garder son équipage comme il était au départ, quoi. On est plus là-dessus.
Ouais. Et puis bon, quand même les relations. Andorien et les Vulcains aussi quand même qui progressent, oui. Un peu, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de dilemme moral où il n'y a pas tellement de...
À part à la fin, en gros, on comprend que bon, la planète en fait elle est dirigée plus ou moins par les Vulcains, mis à part ça.
Oui, c'est vrai que c'est plus axé sur le développement des personnages, oui.
Mm.
Si je te dis que le chef des Andoriens sera plus tard, ça te fait plaisir ou pas?
Donc quoi, pardon?
Le chef des Andoriens.
Ouais.
Shran. Si je te dis que tu vas le revoir, ça te fait plaisir ou pas?
Ah, moi, ça me fait plaisir, oui, je l'aime bien. Il est sympa. Il faudrait pas?
Non, si, c'est très bien. Non,
c'est, quand il y a eu un blanc, j'ai eu peur.
Moi, j'ai trouvé ça, je l'adore et, c'est vraiment à partir de cet épisode qui commence à se mettre en place, quoi. Et, le coup du fait qu'il dort plus la nuit parce qu'il a une dette, etc., il y a...
C'est ça, ouais. Non, mais j'ai pas fait ça pour toi, j'ai fait parce que j'arrivais pas à dormir, en fait. Ça me gonflait, donc, voilà, j'ai payé ma dette, démerde-toi, même. Donc, ça faisait un petit peu gamin, en fait, comment il le dit à la fin. Enfin, moi, je l'ai vu, je regarde les épisodes en VF. Ouais, non, maintenant, j'ai payé ma dette, hein. C'est vraiment ça, quoi.
Ah. Ça va pas me réconcilier avec la VF.
Non, mais j'ai trouvé ça sympa, justement, le fait de montrer qu'il est très, de montrer que les Andoriens en fait sont très sur les sentiments en fait. Moi, je trouvais que ça appuyait ce côté-là justement. C'était pas un mauvais point.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Alors moi, il y a une petite scène où j'ai cru que j'allais en dire du mal, puis finalement, je vais en dire du bien. C'est quand Archer et T'Pol sont attachés, oui. Ensemble, qu'ils, oui, essaient de se détacher.
Et qui tombe, c'est ça.
Oui.
Bon, très bien même.
Et en fait, voilà, bon, en gros, Archer, il est sur le sol et puis les seins de T'Pol viennent s'écraser sur sa tête. Et sur le coup, je me suis dit, oh là là, le truc de gros bof et tout. Et en fait, Archer, il a aucune réaction. Non. C'est le mec le plus neutre de l'univers. C'est comme si c'était, c'est comme si c'était n'importe quelle autre partie du corps. Ça n'a pas d'importance. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, dans n'importe quelle autre série, ça aurait été le prétexte à une blague à la con, ou à ce qu'on a un zoom sur sa tête, où il gonfle
il
les
est
yeux.
Gêné, ou alors on serait sur une série japonaise de manga, il aurait saigné du nez. Enfin voilà, ce genre de truc, quoi.
Et du coup, là où ça aurait pu être, bah, finalement, c'est quand même un signe de l'évolution de l'humanité où tu vois que finalement c'est pas en tout cas Archer qui est pourtant pas quelqu'un qui est connu pour sa retenue quoi.
Le gros beauf, enfin là, clairement Archer ça fait vraiment le gros beauf quoi, capitaine quoi.
Et ben là sur ce sujet là en fait il est super il est super détaché quoi, c'est pas.
C'est certain que Kirk aurait pas réagi comme ça.
Ah c'est sûr.
Je préfère pas savoir.
Il aurait balancé un truc du genre, ah, c'est bien moelleux, ou un truc du genre, non?
Je sais pas, mais moi je le vois pas comme ça, Kirk. Hein. Non, je sais qu'il a la réputation d'être obsédé, mais en fait, séducteur, oui, mais obsédé, moi je l'ai jamais perçu comme ça, en fait. Mais bon, je dois être le seul, hein, mais dans la série originale, il y a beaucoup d'épisodes où Kirk, quand il séduit des femmes, c'est pas parce qu'il a besoin de les manipuler pour sauver son équipage. Donc vraiment, cette image un peu d'obsédé qu'il a, pour moi, c'est plus un phénomène de la pop culture qui a eu après autour de la série originale que vraiment quelque chose qui est dans les séries. Mais c'est vraiment ma perception à moi. Peut-être que je me plante complètement.
Ce serait pas à cause du film.
Et en plus, j'aimais bien ça parce que c'est un renversement de cliché, parce que c'est souvent les personnages féminins qui sont présentés comme étant séductrices pour s'en sortir, un peu la femme manipulatrice, etc. Et là, en fait, c'est dans la série originale, c'est beaucoup Kirk qui joue ce rôle-là.
Oui, c'est vrai. Tu as raison. Comme le dit Charles, c'est peut-être à cause du film récent, enfin des films récents, où Kirk là est un gros bof dragueur relou.
Ça va pas m'aider à me réconcilier avec ce que tu me dis là.
Oui, non, mais on en a parlé dans la dernière émission. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas.
Promo, là.
Mais oui, c'est bien l'autre promo. Du coup, je ne sais plus où on en était.
On était toujours sur enlèvement.
Ah oui, donc la scène, oui, que tu disais que tu pensais ne pas l'apprécier lorsqu'elle est arrivée, mais en fait, ça s'est bien passé. Oui, ça prouve que l'humanité, enfin, ça prouve peut-être que l'humanité, ou du moins que Archer, c'est pas le genre de choses qui marque Archer, c'est vrai. Même l'humanité, c'est vrai. Parce que je vois bien Chris Tucker qui, je pense qu'il aurait eu le même genre de réaction. D'ailleurs, on le voit quand ils passent leur temps à se peloter là et se mettre du gel antibactérien. Ils sont pas du tout justement en train de se peloter. Ils sont vraiment en train de se passer de la crème. Et puis il y a pas le moindre regard lubrique.
Ouais, c'est peut-être plus les mouvements de caméra qui vont avoir un côté suggestif. Pas très bienvenu d'ailleurs, hein, moi je trouve, mais
ah oui, totalement.
Mais effectivement, c'est pas les personnages ni les acteurs, ouais, c'est vraiment la caméra qui est trop intrusive.
Ouais, et puis la scène qui était un peu inutile aussi. Mais on digresse.
Alors, ensuite.
Oui, la suite, l'esprit vulcain ou fusion. Voilà.
C'est donc, ça que tu voulais que je fasse.
De quoi?
Tu voulais que je dise fusion. Ta.
C'est ouais, ça voilà, c'est ça. Dragon Ball Forever. Donc un vaisseau vulcain, du coup, qui rentre en contact avec l'Enterprise. Donc c'est des vulcains renégats entre guillemets. Enfin, ils sont considérés comme renégats par la société vulcaine, car ils vivent soi-disant en harmonie avec leurs émotions et leur logique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de méditer en fait pour contrôler leurs émotions. Enfin, ils n'ont pas besoin. Ils ne refoulent plus leurs émotions. Et donc du coup, on va découvrir la fameuse fusion mentale, donc qui est un ancien art perdu vulcain. Paul, du coup, va découvrir cet art-là via un membre d'équipage, va se reprocher de ce membre d'équipage et essayer justement cette technique, on va dire, pour maîtriser ses émotions. Sauf que ça tourne mal. Voilà. C'est bien ça. Enfin, ça donne envie de cliquer. Pardon.
Ben on a une scène.
Une scène de viol.
Viol, hein. Viol psychique, ouais.
Une scène de viol, hein. Pur et dur, là. C'est-à-dire que, du coup, T-Paul souhaite arrêter, mais son compagnon, j'ai oublié son nom, du coup, ne décide de quand même continuer pour la forcer à accepter ses émotions, et elle en ressort complètement chamboulée à se retrouver à l'infirmerie à la fin de l'épisode.
Alors, il s'appelle Tolaris.
Merci.
avec plaisir.
Un très très bon épisode, même si on sent le coup fourré arriver direct, personnellement.
Ah oui, bah je voulais te poser la question justement. Parce que moi, la première fois que je l'avais vu, et là en le revoyant, je voyais les airs de Tolaris. En fait, ouais, ça se voit à 10 km que c'est un gros pervers. Créature, quoi.
Ah oui, clairement, ça se voit à 10 km. Tu vois sa tête, tu fais toi t'es pas clair. Toi, il va se passer quelque chose. Et ça va être à cause de vous. Ça va être à cause d'autre chose. Ça va être à cause de vous, ça c'est sûr. Donc, mis à part en fait le fait que on sent que leur vivre en harmonie n'est qu'une illusion en fait, avec leurs émotions et leur logique. Mis à part ça, c'est quand même un très très bon épisode justement sur la culture vulcaine, je trouve, pour essayer de comprendre justement pourquoi ils refoulent ces émotions, pourquoi ils sont comme ça en fait.
Ouais, oh oui, c'est je trouve qu'il est il est vachement bien, ouais, pour monter ça, parce que en fait, dans la série originale, en gros, ils expliquaient qu'ils étaient très violents et très dangereux s'ils refoulaient pas leurs émotions, mais comme on le voyait jamais vraiment, on n'en prenait pas conscience, quoi. Et là, on a un exemple hyper parlant du problème, quoi.
Bah, clairement, moi, alors sauf si j'ai loupé des lignes de dialogue, mais dans tous les épisodes que j'ai vus au jour d'aujourd'hui, il y avait rien qui me disait qu'ils le faisaient volontairement.
Ah oui. Ouais. Bah, on l'apprend dans d'autres séries, et puis la série originale aussi, on l'apprend quand même.
Moi, j'avais cru vraiment que c'était plus ou moins inné, quoi. Ils étaient comme ça, plus ou moins innés, que c'était juste une maîtrise, en fait, de cette logique, mais qu'en fait, c'est pas qu'ils avaient pas de sentiments, mais qu'ils avaient quasiment rien, ils avaient qu'une petite bride, entre guillemets, et qu'ils trouvaient que c'était une faiblesse, donc, allez, on vire ça, quoi. Moi, je l'avais compris comme cela au départ.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Ouais, et bah, du coup, c'est très bien, parce que ça permet de mieux comprendre.
Voilà. De mieux comprendre, c'est vrai que cet épisode était vraiment sympa. Là, tu te dis, ah, d'accord, je comprends mieux, en fait, pourquoi c'est des connards insensibles. En fait, c'est encore plus des connards quand ils sont sensibles.
Ouais. C'est un peu ça, ouais.
Voilà.
Après, ils ont, en fait, ils ont quand même une partie de leur cerveau qui, avec l'évolution, qui s'est dédiée au contrôle des émotions.
Ouais.
Quand même. Mais au contrôle, quoi. Pas à leur suppression, à leur contrôle, on va dire, à leur refoulement, mais effectivement, ça les empêche pas d'avoir des émotions intérieures très très violentes, quoi. Je sais pas trop si je peux en parler, si c'est du spoil ou pas. Je sais pas si c'est du spoil, Rémi me coupera. Il y a un épisode de Voyager.
Ouais.
Où, en fait, Tuvok, donc le Vulcain de...
Oui.
Du Voyager, il se retrouve à enquêter sur une planète où les émotions violentes sont interdites, et du coup forcément il y en a qui font du trafic d'émotions.
D'accord.
Et donc ils essaient de provoquer des émotions violentes chez les gens, chez les étrangers notamment. Et du coup il y a un membre de l'équipage, je sais plus qui, si c'est Bilana Torres, la demi-Klingon, qui est justement victime de ça, c'est-à-dire qu'ils font exprès de provoquer une émotion violente chez elle. Et du coup, elle se fait arrêter, et puis elle est condamnée à une peine, un truc un peu inacceptable pour Starfleet. Et tu vois qu'il tombe sur le responsable du trafic des émotions. Tu veux des émotions violentes, je vais t'en donner. Et il lui fait une fusion mentale, et il lui montre tout ce qu'il refoule.
D'accord.
Et là, c'est un truc hyper violent, et le gars, il en tombe dans les pommes. Enfin, je sais plus trop comment il finit, mais ça se passe mal pour lui, quoi. Et c'était le seul épisode où on avait un aperçu de ce que ça pouvait être, quoi. Et les émotions refoulées des Vulcains.
Après, là, en parlant de la fusion mentale, moi, j'ai beaucoup aimé le montage du rêve. Alors, on n'est pas sur la fusion mentale, mais sur le rêve de T'Pol, en fait. Quand elle décide de pas méditer le soir pour justement essayer de rêver, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien fait, car on ressent vraiment toute la détresse, en fait. Même la musique qui est un peu jazzy, qui devrait être agréable à écouter, devient désagréable en fait.
Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai qu'il est, il est, il est, il... Ouais, c'est bien pensé.
Tu comprends que elle est submergée en fait par des choses qu'elle ne contrôle pas. Que t'as la caméra du coup va vaciller, elle va bouger, les couleurs sont pas vives, elles sont plutôt ternes, voire elle vomissent un petit peu entre guillemets, quoi. Enfin, c'est vrai, ce passage est vraiment dérangeant. On a l'impression qu'on est dans un rêve, mais en fait, on est dans un cauchemar.
Ouais, il y a un côté presque presque le style de David Lynch. Ouais, j'ai trouvé
Oui.
en le revoyant.
C'est vrai que ce passage était assez sympa et le fait, avec la fusion mentale, rajouter ce décalage entre guillemets entre le rêve malsain et le mec malsain entre guillemets, j'ai trouvé que ça marchait super bien, quoi.
Ouais, c'est vrai, ouais, tellement bien qu'en fait je me souvenais plus tout à fait de l'épisode. Et du coup, je me suis demandé s'il n'était pas en train de l'influencer télépathiquement pendant qu'elle dormait.
Oui.
La première fois qu'on la voit rêver. Parce que justement, il y avait presque, tu sais, son empreinte à lui, quoi, par rapport à son jeu d'acteur et tout, qui était vraiment ancré dans son rêve. Mais en fait, non, mais sur le coup, j'y ai cru, quoi.
D'autres choses
Oui.
sur Fusion?
Sur le côté oublié, c'est vrai que ça m'a surpris que cet art, en fait, qu'on voit, qu'on même c'est inscrit dans la pop culture entre guillemets, la fusion mentale. Même quand je connaissais pas Star Trek, je connaissais le fait de fusion mentale, quoi. Je savais d'où ça venait et tout ça. Et le fait que ça soit un art oublié vulcain, qui par la suite, du coup, a été en fait plutôt tabou, interdit. C'est vrai que ça surprend sur le coup. Mais quand on voit ce qu'on peut faire avec, notamment comment justement il marque Kirsty Paul, hein, littéralement, avec cette fusion mentale, tu te dis non mais en fait c'est très bien en fait que ce soit oublié.
Ouais, c'est vrai, vu comme ça.
Mais ça correspond bien en fait à la société vulcaine de ce siècle-là, qui se croit libérée de ses
J'ai dit quoi?
émotions. Okay, ouais, je m'y attendais.
Pardon.
Le fait que la fusion revienne plus tard, lors du 24e siècle, enfin aux environs, enfin
Même du
sûrement
23e.
avant, mais on en reparle, ouais. Oui, pardon. Je trouve que ça correspondra plus à la société vulcaine qui là sera vraiment, je sais pas comment exprimer ça, libéré de ses propres carcans. Enfin, il continue de s'imposer je perds mes mots ce soir, je suis désolé.
Alors,
Il
si je peux
continue
te
de.
dire, moi, pour moi, au jour d'aujourd'hui, de ce que j'ai vu des épisodes d'Enterprise, pour moi, les Vulcains, c'est une so société autoritaire.
Voilà, alors que dans l'avenir, ça ne le sera plus, ou beaucoup moins, ou du moins en accord avec elle-même. Elle s'acceptera et elle s'assumera telle qu'elle sera.
Ouais, bah ça montre bien l'espèce de problème culturel qu'ont les Vulcains, quoi, à ce moment-là, justement. Le fait qu'il y ait des dissidents qui cherchent à faire des choses qui sont considérées comme complètement tabous et inacceptables par les autres. J'ai bien aimé le personnage qui est dans Le père est malade.
Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il est vraiment très très sympa. Et le comment il arrive à le faire changer d'avis aussi, merde, l'ingénieur, aidez-moi. Okay. L'ingénieur,
Bah,
le
trip.
comment. Voilà. Comment il arrive justement à le faire changer d'avis, entre guillemets, pour devoir contacter son père. Parce que ce personnage vulcain, en fait, son père est soi-disant malade et demande à être contacté par son fils qui est dans cette société de dissidents. Et du coup, on demande à Archer, entre guillemets, de trouver une solution pour qu'il reprenne contact avec son père avant qu'il meure. Et j'ai bien aimé comment il a été, c'est-à-dire que tu sens qu'il débute avec les émotions, qu'ils ne connaissent pas toutes les émotions. Et qui ne savent pas qu'est-ce qui peut leur arriver suivant un choix qu'ils vont faire. Et notamment le remords, en fait, dire que le remords, en fait, c'est la pire des émotions et que c'est vraiment celle qui peut faire le plus de ravages et qui reste le plus longtemps. C'est vraiment, j'ai trouvé le retournement du personnage assez assez intéressant.
Ouais, d'ailleurs, j'ai oublié son nom, le pauvre. L'un de vous s'en
Andrew.
souvient.
C'est pas
Et
une
moi,
en plus.
j'ai beaucoup aimé le fait qu'il soit en contraste total avec Tolaris. Parce que, bah, Tolaris, il est manipulateur, il est fourbe, il est pervers, etc. Et t'as lui qui est au contraire, presque innocent, qui est super ouvert d'esprit,
J'allais dire nier.
Ouais, presque niais, ouais.
Presque niais, en fait.
Pas dans le mauvais sens du terme, du coup, parce qu'il en est touchant, presque.
Oui. Non, mais pour finir, un très bon épisode. Très sympa, aussi bien sur la culture vulcaine que sur l'évolution des personnages en eux-mêmes.
Du coup, il y a l'évocation de... D'ailleurs, en parlant de culture vulcaine, il y a l'évocation de Surak dedans. Est-ce que dans ce que tu avais vu avant, t'en avais parlé de Surak?
Non, ça me dit rien.
D'accord. Donc là, c'est ta découverte de ce personnage qui
Complètement.
le et il est vachement important parce que c'est le fondateur de la culture vulcaine telle qu'elle est à l'époque des séries de Star Trek. Et on voit qu'il y a plusieurs interprétations chez les Vulcains de l'époque d'Enterprise, justement sur ce qu'ils voulaient vraiment dire.
Là, ce passage-là, ça m'a fait un peu penser au livre sacré des religions. Et en fait, c'est réellement ça. C'est ouais, mais avec toutes les traductions, les machins et tout, qu'est-ce qu'il a voulu dire en fait à la base?
Et c'est et ça aussi, c'est une clé. Peut-être pas une clé, mais c'est le point de départ d'un truc qui sera beaucoup plus
Amené
développé
par
dans la saison 4.
Ok.
Est-ce qu'on enchaîne avec Dire Docteur vite fait?
Vite fait, pourquoi vite fait?
Bah pour faire
On peut y
moins
aller en
d'une heure de
douceur.
pour faire moins d'une heure de d'émission, mais
D'accord.
allez, c'est
Je
parti.
trouvais que c'était celui-là où il y avait le plus à en dire. Et...
Ah bon ben bah allez, prends ton temps, t'en fais pas.
Ah. Donc, pour résumer un petit peu l'épisode, donc il y a un vaisseau qui est à la dérive et qui appelle à l'aide l'Enterprise. Ces deux passagers du coup sont malades, demandent en fait à l'Enterprise de trouver un remède à leur maladie qui touche également toute la population de leur planète. Ils vont donc Archer prendre la décision de s'y rendre pour essayer de résoudre ce problème-là. Et du coup sur une société où deux espèces humanoïdes cohabitent. Ces deux espèces du coup ne s'entretuent pas. Elles ont juste un rapport de force différent puisque d'un côté ah merde, j'ai oublié les
Alors il y a
Rakshas.
les Valakiens,
Voilà, il y a les Valakiens et
les Menk.
les Menk. Voilà. Alors les Valakiens du coup sont un peu la race, on va dire, intelligente entre guillemets, hein. C'est-à-dire la plus évoluée au niveau sociétal, au niveau technologie et tout. Et les Rank du coup,
Les
eux
Menk.
les Menk, du coup, les Rank. C'est ridicule. Les Menk, du coup, eux vont être un petit peu plus sauvages, entre guillemets, et vont être aussi, sont dans un rapport de soumission, entre guillemets, au Valarien, au Valakien.
Au Valakien, ouais, c'est ça.
Voilà. Donc, du coup, c'est-à-dire que c'est les Valakiens, du coup, qui vont leur donner à manger, c'est eux qui ont toutes les cultures et tout ça. À la suite du coup de plusieurs recherches, on va se rendre compte du coup que c'est les gènes des Valakiens qui sont défaillants, et donc du coup que leur espèce est destinée à mourir et à disparaître, hein, tout simplement. Et là, le gros dilemme moral entre guillemets qui va en sortir, c'est justement Archer a la possibilité de les sauver. Que, du coup, le médecin va trouver un remède. Et le dilemme d'Archer, c'est est-ce qu'on donne ce remède pour changer, on va dire, le cours de l'histoire par rapport aux Valakiens, ou est-ce qu'on leur donne pas, on les laisse entre guillemets disparaître, que l'autre race, entre guillemets, les Menks, prennent le dessus sur les Valakiens. Voilà le résumé.
Allez, c'est parti pour les ressentis.
Moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode, notamment de parler justement des autres races humaines, humaines. Peu de gens en fait savent que l'humanité, c'est pas juste l'Homo sapiens, qu'il y a eu d'autres Homo, il y a les Erectus et tout. On pense tous qu'en fait c'est Homo Erectus qui est devenu Homo sapiens, qui est devenu machin. Mais non, en fait, c'est juste Homo sapiens qui a foutu la gueule à Homo Erectus. Du coup, en fait, ça nous remet vraiment dans ce contexte historique, en fait, de l'évolution, que c'est la race qui arrive à le plus, entre guillemets, s'en sortir, qui va du coup prendre le dessus sur l'autre race. Alors là, je parle bien de races complètement différentes, hein. C'est pas pas raciste.
C'est des espèces, en fait.
Ouais, c'est des espèces, c'est pas des races. Ouais. L'autre espèce, ça. C'est beaucoup mieux, en fait. Ça sonne mieux de suite, espèce. Et donc, du coup, on est vraiment sur ce dilemme sur... on le dit clairement dans l'épisode, si justement une société extraterrestre était venue à cette époque-là et avait aidé l'autre espèce du coup à s'en sortir contre nous, parce que nous, comment la société aurait évolué, quoi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce parallèle, en fait, avec la réalité de notre civilisation. Et également, du coup, l'utopie de dire qu'est-ce qu'on fait, enfin l'utopie, l'imaginaire, le dilemme entre guillemets de qu'est-ce qu'on ferait si on avait la possibilité de choisir entre deux espèces, quoi.
Et oui, c'est ça. Je sais pas si tu l'as bien précisé, mais en gros, Phlox, il considère que il découvre que les Menk sont en fait beaucoup plus intelligents que ce qu'on croit au premier abord.
Ah non, je l'ai pas précisé ça. Je l'ai pas précisé qu'ils étaient sous-intelligents, entre guillemets, mais oui, c'est bien de le dire, ouais.
Et aussi que lui, il pense que les Valakiens, en fait, empêchent les mecs d'évoluer, qu'ils les bloquent un peu à un certain stade d'évolution.
Ils les maternent, en fait, hein, comme une mère qui couve trop son enfant, qui n'arrive pas à grandir, entre guillemets. C'est comme ça qu'il le voit, entre guillemets, hein. Il les interdit de cultiver, de se mettre à certains endroits et tout ça pour justement tout leur donner.
Et donc aussi, le dilemme, il est aussi du fait que le docteur Phlox, lui, au bout d'un moment, il se dit qu'il veut pas les soigner, finalement. Et Archer, lui, il a la possibilité de le forcer à le faire, parce qu'il lui donne un ordre, il le fera. Mais lui, c'est du coup lui qui se retrouve à hésiter, alors qu'au départ c'était le docteur qui hésitait. Mm. Et finalement, ça se transfère sur le rôle du capitaine. Quoi.
Le rôle du capitaine, de choisir. Et il explique bien en fait que ça, c'est sa double casquette entre guillemets de médecin qui doit guérir tout le monde, qui a pris comme résolution entre guillemets de guérir tous ceux qu'il pouvait. Et le scientifique qui dit ben non, mais c'est la nature qui a décidé de que ce soit comme ça. Il est dans une grosse contradiction, en fait.
Alors moi, il y a une phrase de Archer que je trouve géniale, mais qui ne t'aura pas forcément parlé. C'est quand il dit que un jour son peuple trouvera une sorte de doctrine, de loi qui permettra de savoir quoi décider dans ce genre de cas. Et qui évitera justement d'avoir à subir ce genre de choix atroce que personne devrait avoir à faire. Et ça fait écho à un des fondements de Star Trek, en fait. D'accord. Qui est la directive première, c'est-à-dire la première directive de Starfleet, qui est le fait de pas interférer avec les espèces qui n'ont pas développé la distorsion.
Okay.
Et elle n'existe pas à cette époque-là.
Mmh.
Alors je me rappelle plus la phrase exacte.
Ah, on en parle plus, ça dans le troisième film en plus.
Ah oui.
On en parle dans le troisième film de GT au tout début, justement, qu'il faut pas qu'ils s'interfèrent entre des espèces sous-évoluées.
Oui, c'est dans le deuxième.
C'est dans le deux.
Il se fait engueuler Kirk parce qu'il a il a volé le je sais plus quoi du peuple qui est sur la planète au début là avec le volcan.
Oui,
c'est parce qu'il a empêché le volcan, en fait, parce qu'il avait empêché le volcan.
Non, il le fait exploser, mais il fait quitter les habitants qui habitaient en bas du volcan. Mmh. Il les empêche de mourir.
Et moi, cette ligne de dialogue d'Archer, je la trouve vraiment bien. Comment dire ? Alors, je pourrais pas la citer, mais je la trouve vraiment bien écrite et bien prononcée. Et pour moi, rien que cette ligne de dialogue, en fait. On est à peu près au milieu de la saison 1, je crois. Ouais. Si ça suffit à justifier l'existence d'Enterprise pour moi.
Mais de toute façon, elle sert à prouver que Enterprise fait les choses en finesse. C'est comme un peu le contre-exemple de ça serait l'alerte rouge, la red alerte qu'on va voir se développer durant Enterprise. Là, c'est très mal fait, c'est fait avec des sabots, c'est ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est le seul contre-exemple, en fait. Tout le reste du temps, dès qu'on a des références aux autres séries ou au devenir de Starfleet, c'est fait plutôt bien et en finesse comme là.
Ouais, et puis il y a vraiment ouais ce rôle de préquel qui est complètement assumé dans cette phrase, c'est-à-dire que c'est pas le Star Trek des 23e et 24e siècle, mais justement on est en train de montrer
c'est des débuts, on tâtonne, on sait pas trop comment on fait et on essaie de créer les raids au moment en fait où justement les événements se produisent, quoi.
Ouais, c'est ça, puis c'est la démonstration de l'importance de certaines choses du coup dans l'avenir de l'univers de Star Trek. Et là du coup sur la directive première, quoi, t'as tout un épisode pour démontrer pourquoi cette directive elle est importante et ouais, je trouve ça vraiment bien bien pensé, quoi. Et en plus en fait ne pas le voir la référence, pas du tout l'appréciation de l'épisode vu que Charles t'as l'air de l'avoir beaucoup aimé.
Non, moi je l'ai beaucoup aimé, ouais, cet épisode. C'est vrai que j'ai pas vu la référence. Alors j'ai compris entre guillemets que ça allait venir plus tard, que ça le sous-entend énormément en fait. Mais c'est vrai que j'ai pas eu la référence de me dire ah mais oui, il parle bien sûr de la raid, le machin, truc niche. Mais par contre j'ai compris que bah oui, bah c'est normal, Archer il débute, entre guillemets, dans cette exploration, on sait pas trop comment s'y prendre, donc on invente les règles au moment où les problèmes se produisent.
Ouais, ouais, bah de toute façon, c'est ce qu'il fallait comprendre.
Donc c'est bon, j'ai bien compris, c'est parfait.
20 sur 20.
Ouais, trop bien.
Alors je vais poser une question piège.
Vas-y, j'ai peur.
Si t'avais été à la place d'Archer, t'aurais choisi quoi?
Oh.
C'est pas obligé de répondre, hein, parce qu'elle est méchante quand même.
Ouais, j'avoue. Alors là, franchement, je pense que je les aurais sauvés, moi. Je pense. J'aurais pas pu. Alors, en fait, le souci, c'est que je me vois mal continuer à vivre en sachant que j'ai appuyé sur le bouton, entre guillemets, pour supprimer toute une espèce.
Ouais, après, il les a pas supprimés. Ça se tombe, ils vont trouver le remède plus tard, quoi. C'est juste oui. Qu'il a pas saisi l'occasion de les sauver, plutôt.
Voilà. Ouais, enfin, bon. C'est quand même le gamin, entre guillemets, il jouait avec un Colt. Archer, il a juste enlevé une balle. basiquement, c'est ça. Hein.
Et c'est comme ça qu'on a créé Stargate.
Oh, la violence de la métaphore. Oh là là.
Non, mais ça fonctionne.
Tu l'as pas vu venir, celle-là.
Ouais, rien de plus sur cet épisode. T'avais l'air de dire que t'allais en parler pendant longtemps.
Ben, en fait, je pensais, mais en fait, c'est résumé très vite. Je pensais qu'on allait en débattre plus longtemps, mais en fait, non.
La structure narrative de l'épisode, le fait qu'elle soit centrée sur le docteur.
Oui, c'est quand même un point assez important. En fait, tout l'épisode est raconté du point de vue basiquement du docteur, et notamment via ce que fait beaucoup de séries, un épisode introspectif. Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, on va entendre les pensées entre guillemets du docteur. Et qui notamment rédige entre guillemets une lettre de bord pour son ami, pour son collègue et tout ça. Quand l'épisode a commencé, j'ai eu très peur parce qu'il y a beaucoup de séries qui font ça et il y en a beaucoup qui le font très très mal. Et là, franchement, c'est vraiment passé tout seul. Donc j'ai trouvé la structure narrative vraiment très sympa. Le fait justement que ça soit justifié entre guillemets, que ça soit un collègue qui raconte des anecdotes aussi bien sur l'équipage. Mais justifié dans le scénar par le fait que le docteur a un grand rôle. Il y a beaucoup de séries qui le font, ce genre d'épisode, mais en fait c'est juste on met le projecteur sur lui, mais basiquement il fait rien d'important, alors que là il prend vraiment une décision centrale, justement c'est lui qui a le dilemme entre guillemets vraiment à la base de sauver ou non une espèce, quoi. Donc il porte vraiment tout l'épisode et ouais, j'ai trouvé vraiment excellent ce système narratif-là, vraiment bien exploité, quoi, au bon moment. Et notamment aussi la création, entre guillemets, d'une liaison avec une humaine.
Avec Cutler.
Cutler. Et très sympa, parce que justement, lui, est un extraterrestre, il va pas savoir exactement comment se comporter, savoir quel signaux. Et du coup, il va demander conseil, machin. Alors, comment ça se passe chez les humains? Je trouvais ça assez sympa.
Avec Oshi qui apprend le démobulien.
Oui, c'est assez rigolote.
J'ai bien aimé l'idée que les démobuliens soient polygames et polyamoureux dans les deux sens, et que ça ait l'air de bien fonctionner.
En fait, ça fonctionne bien. J'ai deux femmes et puis elles ont elles-mêmes deux maris et puis voilà, hein, c'est pas grave. Hein, écoute, C'est comme ça. Hein. Moi, la réflexion qui m'a fait beaucoup rire, c'est au tout début de l'épisode où il se dit justement que il ne savait pas trop comment prendre ces ce comportement-là parce que les femelles humaines dégageaient beaucoup moins de phéromones. Et j'ai trouvé ça très rigolo.
Oui, c'est vrai, oui. Ce qui laisse entendre qu'une démobilienne, quand elle est intéressée par quelqu'un, ça se sent en sens littéral.
Voilà, ça se sent en sens littéral, clairement. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais un très très bon épisode, avec un bon dilemme moral. Enfin, vraiment du Star Trek, quoi. Clairement, c'est ce que t'attends d'un épisode de Star Trek. Du gros dilemme moral, de la science-fiction à gogo, mais sans de piou-piou partout, voilà.
Ah, on est... Enfin, je suis très content que tu dises ça.
C'est quoi? Il n'y a pas de piou-piou?
Non, non, mais ce que tu viens de dire, là, c'est du Star Trek.
Ouais, non, mais ça y est, là, on peut dire que t'as tout compris à Star Trek, en fait.
Ouais, trop bien. Je peux monter de rang, s'il vous plaît?
Allez, tu peux devenir un enseigne.
Ouais.
Et il y a Flox qui découvre aussi le cinéma, mais qui est plus intéressé par les spectateurs et les spectatrices que par le film.
J'aime beaucoup la réflexion aussi qui balance. Non, mais en fait, ça marchait bien à une époque, mais jusqu'à ce que les gens se rendent compte que, bah, en fait, leur vie, c'était mieux.
Ça, c'est génial.
Puis c'est osé parce que c'est un gros tacle envers les fans de Star Trek, en fait.
Oui, c'est ça.
C'est ouf. Bon, est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez aborder à propos de Star Trek Enterprise?
Non, moi, je suis toujours chaud pour continuer parce que, franchement, ça me botte un match.
Cool.
Voilà. Je vais avoir mon chat.
Drag, oui, allez, ça c'est la, c'est la gimmick de l'émission. C'est ça,
la gimmick à chaque épisode qui va sortir.
Dragor, tu voulais ajouter quelque chose d'autre à propos de cette émission?
Non, non, rien de plus, je suis content que Charles ait apprécié tout ça.
Mmh.
Ça fait plaisir. Parce que, bah, quand on aime un truc, on aime bien voir que c'est partagé, quoi.
Ah, c'est surtout, je trouve que Enterprise est vraiment bien fait pour les noobs. Hein. C'est la porte d'entrée la plus facile, je trouve, dans l'univers Star Trek.
Ben, moi, c'est ce que je me suis dit aussi, c'est ce que je me disais aussi, et donc je suis content d'en avoir la confirmation. Parce que j'aime bien avoir raison. Mais c'est vrai que moi, c'est la série que j'ai tendance à conseiller aux gens quand ils veulent se lancer dans Star Trek. Sauf si c'est vraiment des gens qui sont fans des séries anciens. Des années 80.
Voilà.
Et là, je vais leur dire, t'aimes les séries des années 80, regarde. Mais sinon, c'est Enterprise que je conseille. Quoi.
Là, pour rentrer dans l'univers, t'es à la genèse du coup de tout ce qui a existé dans Star Trek. T'apprends tout petit à petit. Bon, y a des références sur plus tard, mais comme c'est des références sur plus tard, c'est pas dérangeant. C'est pas comme sur des références des trucs qui se sont passés avant et t'es pas au courant. Non, c'est vraiment une très très bonne porte d'entrée. Voilà.
Et visuellement, c'est bon aussi.
Enfin, c'est visuellement, voilà.
Après, on trouve bon parce que ça correspond à nous, nous trois, je pense qu'on est dans la même génération et qu'on regardait la télé en même temps quand on avait une dizaine d'années. Du coup, c'était ce qu'on voyait à la télé, donc ça ne nous choque pas.
Alors, je suis à moyennement d'accord avec toi, parce que je trouve quand même qu'avec l'évolution technologique, on se lâche très très vite, hein. Tu le sens quand même que visuellement c'est vieux. T'arrives à regarder, mais on est tellement dans l'évolution technologique que tu sens de suite ça c'est pas une sortie, c'est pas une série qui vient de sortir.
Oui, oui, oui.
Donc il y a
ça ne nous choque pas autant que peut nous choquer le début de la série originale, mais le début de Next Generation par exemple.
Ah oui, c'est sûr.
Moi, Next Generation, je suis né. La série devait en être à peu près à la moitié. Du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, c'est vraiment, c'est du pré-Rémi.
Moi, je suis né l'année de la deuxième génération.
Mais du coup, enfin, peut-être que tu penses pas comme moi, mais quand tu l'as découvert, non?
Ben, alors, justement, t'as devancé ce que j'allais dire, en fait, c'est parce que, moi, donc j'ai commencé à regarder The Next Generation. Je crois que je voyais un pote, je disais ouais, j'ai commencé à regarder Star Trek et tout. Et en fait, ce que je disais à tout le monde, c'est c'est beaucoup moins kitsch que ce que je pensais.
Oui.
Du coup, je m'attendais à un truc vraiment beaucoup, plus comme la série originale en fait. Et au final, j'avais été agréablement surpris du fait. Ce que je disais aussi, c'est qu'ils avaient la bonne idée de pas chercher au niveau vu que The Next Generation se concentre beaucoup plus sur les intrigues, sur les dialogues, etc. Finalement, ça passe pas tant que ça sur les effets spéciaux, quoi. Il y a le pilote où il y en a un peu plus, et après il y en a moins finalement. Ce qu'on voit, c'est des maquettes, mais bon, les maquettes, ça vieillit pas tellement.
Non, les maquettes sont propres.
Et du coup, bah, ça, moi, je trouvais que ça passait bien. Bon, après, il faut savoir que moi, déjà à l'époque, je regardais des trucs. J'avais l'habitude de regarder des vieux films. Peut-être pas trop de vieilles séries, mais j'avais l'habitude de regarder des vieux films, donc ça me choquait pas du tout, quoi. Parce que j'avais vu bien pire déjà. Okay. Il y a ça aussi qui joue.
Ok. Mais ok. Ouais. Enfin. Bon, j'y reviens une dernière fois, mais moi, en fait, quand j'ai découvert Enterprise, comme je disais, je me suis revu il y a 20 ans quand je rentrais de l'école et je regardais, je sais pas, les séries qu'il y avait sur M6.
Stargate.
Ouais, il y avait Stargate. J'ai pas d'autres exemples. Mais oui, voilà, totalement Stargate. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'ai vu un épisode de Stargate. Comment ?
Buffy contre les vampires ?
Ouais, voilà. Non, je regardais pas Buffy parce que ça me faisait peur. Mais la semaine dernière, là, je j'ai plus la télé, donc je vois pas de série à la télé. Mais je voulais regarder un programme en streaming et je suis tombé sur un épisode de Stargate en attendant que mon programme commence et ça m'a fait très très bizarre parce qu'en fait. C'était pas très bon. Alors que j'aimais beaucoup ça quand j'étais petit. Enfin bon.
Bah ça a moins bien vieilli qu'Enterprise, Stargate quand même. Enfin, moi je me suis refait tout SG1 il y a un an à peu près. Moi je me suis régalé, hein, c'est cool. Hein. Mais ça m'a donné une autre perspective aussi sur Enterprise. Parce que bah justement, on en parlait tout à l'heure, la scène dans le pilote, puis qu'on revoit plus tard, la scène de décontamination, ça avait choqué pas mal de fans de Star Trek. Et puis quand tu vois des gens qui les redécouvrent, à chaque fois ils sont là, ouais bon, c'est un peu abusé, la caméra. Enfin, et en fait, dès le pilote de Stargate, il y a un nu intégral, tu vois tout, ça cache rien du tout. Du coup, tu te dis, finalement, Enterprise c'est super sobre par rapport à ce qui se faisait autour, quoi.
Ah putain, je savais pas, je me souviens pas.
Ah, je me souviens pas du tout. Pourtant, je me suis pas fait. Il est fait il y a pas si longtemps que ça, mais.
Bah, c'est la femme de comment elle s'appelle. Je me rappelle plus de leur nom ni à l'un ni à l'autre. Alors comme ça, je vais pas m'en sortir.
Moi, je me souviens le copain de
Daniel.
Ah oui.
Sa femme quand elle se fait prendre par le Goa'uld. Bah, on la voit entièrement nue, quoi.
D'accord. J'avais jamais fait gaffe, tu vois. Je vais faire autre chose en même temps.
Ok. Bon, je pense qu'on arrive à la conclusion de cet épisode.
Oui, pour, clairement, parce que là, on a bien digressé, là.
Digressé.
Oui.
Je vais vous donner un petit indice pour la prochaine émission qu'on va enregistrer bientôt. On va attaquer un triptyque extrêmement connu. Ah, ça marche pas.
Khan!
Merci beaucoup, c'était magnifique. Merci beaucoup, parfait. Voilà, donc.
Je me suis retenu de le faire, moi.
Prochain épisode, on attaque. Ça y est, j'ai perdu le nom. Space Seed. En espérant qu'on soit l'équipe au complet, parce que j'aimerais bien que tout le monde le découvre et tout le monde donne ses avis. Byron et Renaud, je voudrais savoir également leur avis dessus. Et l'épisode d'après, ce sera sur Wrath of Khan, la colère de Khan. Et le troisième épisode sur Into Darkness, Star Trek Into Darkness, le remake, entre guillemets, de la colère de Khan. Et je pense qu'on va essayer de caler un petit épisode hors série, pour ceux que ça intéressera, sur le comic book qui était sorti... sur le préquel de... Pas le préquel... Oui, si, sur le préquel de la colère de Khan. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Vivez longuement, de manière prospère. N'hésitez pas... Voilà, ça y est, je me souviens de ce que je voulais dire. N'hésitez pas à commenter, à nous donner votre avis à propos des propos qui ont été tenus ici, à propos de cette émission directement. Toujours à votre disposition le hashtag NoobTrek, NulTrek. Voilà. Un petit dernier mot, Charles, pour la fin. Au revoir.
Longue vie et prospérité.
Oui. Dragor.
Crapla.
Allez, à bientôt.
Ciao.
Star Trek pour les nuls.